Mon titre d'aujourd'hui, c'est « Quel sauveur merveilleux je possède ». Et, oui, excusez-moi, donnez-moi une petite seconde, voilà, oui. Ce matin, en fait, on va commencer en parlant des héros. Alors, pense à un héros ou à un super-héros que tu connais.
Jésus.
On va arriver à Jésus, oui. Un héros, c'est quelqu'un qui agit pour sauver les autres. Et il est souvent unique, il est souvent isolé dans son action. Et c'est ça qui fait que il est un héros, c'est qu'il fait quelque chose de difficile qu'il fait seul. Et souvent, c'est seulement lui qui peut le faire. Et lui ou elle, ça peut être une héroïne. Et c'est cet accomplissement unique qui lui donne la gloire du héros. Alors, on va maintenant regarder une vidéo que je ne sais pas si Samuel, tu es prêt. C'est une petite vidéo, L'aigle, le bébé et le chien, qui est sur YouTube. Donc, on va donner à Samuel un moment pour trouver le lien. Je ne sais pas si la scène est réelle ou modifiée par l'intelligence artificielle, mais c'est l'histoire qui compte. Et puis, on va voir un héros à l'œuvre. Merci beaucoup. L'aigle, le chien et le... L'aigle, le bébé et le chien, oui. Oh, ça s'en vient. Merci, super. C'est pas long en plus. On va peut-être le regarder deux fois. Ça passe comme dans quelques secondes. Oh, oh, on va y arriver. OK. OK, on va le regarder une deuxième fois. OK, on peut l'arrêter. Je pense qu'on a compris. C'est... Oh, oui, c'est très possible, oui. Mais, bon, la question qui n'est pas difficile, c'est qui le héros dans cette petite scène? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait de lui un héros?
Ben, il sauve le bébé de l'aigle.
Il sauve le bébé de l'aigle, oui. Et, bon, et en fait, il... Il agit seul aussi. Hein?
Et qui est celui qui est terrible? C'est celui qui ne lâche pas la caméra pour aller sauver le bébé.
Oui. Non, c'est ça. En plus, on dirait qu'il y a une véranda. Donc, comment est-ce que l'aigle a pu entrer? On peut se poser bien des questions. OK. Mais le héros, lui, c'est ça que je voulais vous montrer. Et comme vous voyez... Tu peux devenir un héros sans préparation. C'est une situation inusitée et tu fais la bonne chose au bon moment. Peut-être qu'un jour, tu vas être un héros pour quelqu'un. Peut-être qu'un jour, tu as déjà été un héros pour quelqu'un. Peut-être que tu voudrais être un héros et ça va être quelque chose qui va t'arriver. Mais ce matin, j'aimerais te dire que, en fait, tu as un problème. Tu as un problème où toi, tu as besoin d'un héros. Et ton problème, c'est ton problème de ta destinée éternelle. Après ta mort, où vas-tu aller? Qu'est-ce qui va t'arriver? Nous avons tous ce problème de notre destinée éternelle. Et pour le régler, tu as besoin d'un héros qui n'est pas toi. C'est là qu'on va venir à l'Évangile, l'Évangile de Marc, et nous allons lire un passage où nous voyons Jésus, en fait, dans une action solitaire pour nous. Et c'est l'épisode du jardin de Gethsémané. On va le lire, mais d'abord, je vous invite à prier avec moi. On va courber nos têtes et prier. Seigneur, Jésus, merci pour ton incarnation. Oui, tu es devenu homme pour vivre ce que nous vivons. Et en toi, nous avons aujourd'hui un sauveur qui connaît notre souffrance et qui compatit avec nous quand nous, nous souffrons. Mais Jésus, merci surtout pour ta passion, parce que tu as choisi de souffrir et de mourir pour nous. Oui, cette souffrance-là, tu l'as vécue complètement seule. Et parce que tu l'as fait, nous n'avons pas à la vivre, cette souffrance-là. Et tu l'as fait pour que nous n'ayons pas à la vivre. Merci. 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 Amen. Lisons le texte. C'est dans Marc, chapitre 14, à partir du verset 32. Donc, on parle de Jésus avec ses apôtres. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit approche. » Amen. Alors, cette histoire est une histoire triste, une histoire pleine de noirceur et une histoire où on voit une solitude intense. Je voudrais qu'on regarde des aspects de cette histoire qu'on vient de lire avec un intérêt pour, justement, cette solitude dans la difficulté qu'elle décrit. Alors, premièrement, je vais juste résumer un peu ma recommandation pour vous. Donc, en cette saison de Pâques, mon frère, ma sœur, prends le temps de réaliser à quel point Jésus était seul dans le combat qu'il a livré pour ta liberté. Prends le temps de réaliser à quel point Jésus a accepté d'être seul et de combattre seul pour gagner ta liberté. Un premier aspect qu'on voit ici, c'est dans les relations de Jésus avec ses meilleurs amis. Jésus finit par être seul dans la prière. Il est abandonné par ses amis. Alors, le groupe vient de prendre un repas très chaleureux ensemble, le repas de la Pâque juive, le dernier repas de Jésus. Et durant ce repas, Jésus a annoncé que très bientôt, il va être arrêté, condamné, mis à mort. Et il leur a annoncé une autre nouvelle vraiment triste durant ce même repas, c'est qu'un d'entre eux, un des proches collaborateurs, quelqu'un qui était à la table, allait livrer Jésus secrètement aux autorités. Donc, les autorités voulaient appréhender Jésus sans que la foule, sans que la population voie, et le traître les a aidés à être au bon endroit au bon moment pour faire cette arrestation qui était dans un sens injuste et, on pourrait dire aujourd'hui, illégale. Mais c'est ce qui est arrivé. Jésus, donc, va avertir durant ce repas ses apôtres qu'il doit souffrir, et même il leur dit, je dois souffrir seul. Venez avec moi jusqu'à un certain niveau, mais ce que je dois faire, vous ne pouvez pas le partager avec moi. Mais Pierre, le leader du groupe, affirme que, sans vraiment tout comprendre, il est quand même dans les patates, on dit aujourd'hui, à sa place, on n'aurait pas fait mieux. Et il dit, mais je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire, mais si ça t'arrive, moi, je vais aller jusqu'à la mort avec toi. Je vais te défendre. Jésus n'a pas confiance dans ses promesses. Et en plus, il sait que le but n'est pas de se défendre ou d'échapper à la mort. Jésus se prépare à souffrir seul. Alors, Jésus est pleinement humain. Alors, je suis en train d'enseigner un cours sur Jésus-Christ à l'école biblique, à l'ETEC, la faculté. Et c'est une de nos croyances vraiment fondamentales. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Mais il est 100% homme et à cause de ça, il se sent faible dans cette situation. Et c'est peut-être arrivé soudainement par rapport à... On le voit très fort dans l'Évangile. Ici, on voit qu'il se sent faible. Il a besoin de trouver un endroit pour prier. Et il amène le groupe avec lui dans un grand jardin d'oliviers sur le flanc d'une colline. C'est le soir. Il fait sombre. Les arbres offrent un peu d'abri pour son temps de prière, mais l'atmosphère est imprégnée de danger. Jésus est humain. Et les émotions qui l'assaillent sont humaines. Et donc, il a besoin de soutien. En tout cas, il ressent le besoin de soutien. Et même s'il est tard et qu'ils sont fatigués, il demande à ses amis de rester réveillés, de veiller, peut-être de surveiller, mais aussi de prier pendant que lui va rencontrer son Père céleste, seul à seul, pour puiser de la force. Il amène avec lui ses trois amis les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, qui sont un peu les leaders parmi les leaders. Il leur demande de rester réveillés pour prier pour lui et avec lui. Mais eux ne comprennent pas l'ampleur du combat. Et on a l'impression qu'ils ne savent même pas qu'il y a un combat. Et ils s'endorment. Jésus doit souffrir sa passion seul. Et même ici, avant que ça s'empire, dans le combat de la prière pour se préparer, il doit prier tout seul. Donc, déjà, on peut admirer notre héros et lui dire un grand merci. Il a gagné le combat de la prière. Il a accepté de prier seul. Il a foncé dans la bataille de la prière. Et on voit que c'était dur pour lui, cette prière. Le texte nous dit qu'il s'y est pris par trois fois. Et ça donne l'impression qu'il se butait au silence du ciel. Et donc, il répétait les mêmes paroles dans les trois moments où il se jette à terre. Il répète les mêmes paroles. Alors, contrairement aux apparences, Dieu est là qui l'aidait. Le Saint-Esprit était là qui le soutenait. Lui luttait avec le sentiment que Dieu ne l'écoutait pas. Ça peut arriver aussi des fois dans la prière. C'est arrivé à Jésus lui-même. Après un bout de temps, il arrête de prier. Il sent que c'est le moment d'arrêter. Peut-être qu'il a senti qu'une force lui revenait. Et voilà, il se lève et il dit à ses disciples, « Allons-y, marchons vers mon arrestation. » Jésus a entrepris tout seul le combat de la prière et il l'a gagné. Et il l'a gagné pas seulement pour lui, mais pour nous, pour toi et moi. Alors Jésus, on aimerait te dire merci ce matin d'avoir eu le courage et la volonté d'entreprendre seul ce combat de prière à Gethsémané. Amen. Une autre dimension de cette histoire, Jésus est seul à résister à la tentation. Et une chose qu'on a dit en voyant le premier combat de Jésus dans le désert il y a plusieurs mois, c'est que Satan, c'est celui qui est derrière les tentations. Ce sont des séductions. C'est d'offrir à Jésus, et il agit de la même manière dans nos vies, nous offrir un plan B qui semble gratifiant, mais qui nous dévie de ce que Dieu veut. Et en fait, on voit que Jésus était décidé dès le départ dans cet évangile de Marc. Dès le départ, le plan A, je le connais, puis c'est celui-là que je vais accomplir. Et on a vu, il y a quelques semaines, que c'est lui qui a décidé, je vais marcher vers Jérusalem avec ma gang derrière moi, et eux n'étaient pas contents, mais c'est lui qui marchait par en avant, tout seul à voir le but, le plan A, il marchait vers sa mort. Que ce soit dans le désert, dans ses succès à Capernaum, vous vous souvenez, il était le super pasteur, guérisseur, chasseur de démons et là aussi, Satan lui a proposé un plan B et il a dit non. Et même quand le premier de ses apôtres a reconnu, c'est toi qui es le Messie. Pierre, quand il a fait sa confession, au même moment, et à travers Pierre lui-même, Satan lui a proposé un plan B. une issue en apparence beaucoup plus gratifiante que le plan A, mais qui n'aurait pas accompli notre salut. Nous, on est des humains pécheurs. On ne peut pas comprendre pourquoi... c'est pas facile de vraiment comprendre pourquoi Golgotha était nécessaire pour régler notre problème de destinée éternelle. C'était compris par Dieu seul. C'était même décidé par Dieu seul. Voilà la solution nécessaire. Golgotha, le sacrifice où Dieu lui-même se donne. Et parce que Jésus a résisté seul, c'est pour ça, parce que les autres ne comprenaient pas. Jésus seul comprenait, et c'est pour ça qu'il a dû résister seul à cette tentation du plan B qui est venue dans le jardin jusqu'à lui. Fuis! Peut-être que c'était... Écoute, tes disciples ont eu des idées pour fuir. Fuis avec eux. C'est ironique de voir Pierre, Jacques et Jean qui nous représentent. J'ai parlé de ce texte avec certains d'entre vous cette semaine et plusieurs m'ont dit, mais à leur place, j'aurais fait la même chose. Donc, oui, on n'aurait pas fait mieux. Mais c'est quand même ironique, de nous voir en eux. C'est eux qui ont dit à Jésus, pas longtemps avant, la coupe que tu dis que tu vas boire, oui, nous aussi, on est capable de la boire. Et Jésus a dit, vous allez finir par la boire, mais pas tout de suite. Vous n'êtes pas prêts encore. Et c'est intéressant qu'on les voit, dès que ça se chauffe, ils se précipitent sur leur plan B et ils fuient sans hésiter. Ça, c'est un petit peu plus tard dans l'histoire. Mais nous voyons les émotions humaines de Jésus. Il est envahi par la terreur de ce qui va arriver. Et c'est comme un humain, comme nous, qu'il prie ici. Seigneur, sors-moi de cette souffrance. Père, donne-moi un autre chemin que celui du calvaire. Dans ses prières, on voit d'une part qu'il exprime vraiment ce qu'il ressent en tant qu'humain. Mais on voit aussi que ce qu'il veut vraiment, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et cette volonté, elle était déjà en lui parce que, comme j'ai dit, il est aussi 100% homme. C'est des drôles de mathématiques, 100% homme, 100% Dieu. Il avait aussi la volonté divine à l'intérieur de lui. Et elle était unie à celle du Père. Et il finit par dire, non pas ce que je veux en tant qu'humain, mais ce que tu veux. Quel conflit à l'intérieur de lui. Mais c'est le plan de Dieu qui l'emporte. Et grâce à sa victoire sur la tentation, nous aussi, on gagne. On a gagné. Et on a tellement gagné, Jésus l'a vaincu seul pour nous. Alors, Seigneur Jésus, merci d'avoir tenu ferme devant la séduction à Gethsémané. Et merci de l'avoir fait non seulement pour toi-même, mais surtout pour moi, pour nous. Amen. Bon, il y a quand même une autre dimension du texte et qui touche à ce qui va venir après sur la croix. Jésus est seul à subir la condamnation de Dieu. Et c'est pour ça que il souffre dans son âme et ses émotions. en cette nuit affreuse. Il a des souffrances en tant qu'humain, en fait, en tant que fils de Dieu aussi, des souffrances que même nous, on n'arrive pas à comprendre. On comprend les mots. C'est des mots vraiment, vraiment intenses, des mots qui sont qui expriment ici sa frayeur, son angoisse, la vague d'émotions qui le font tomber à terre. Et même, il y a un autre évangéliste qui écrit la même histoire et qui dit qu'à un moment donné, il commence à suer des gouttes de sang. Alors, c'est comme, waouh! Vraiment, il souffre des émotions effrayantes qu'on comprend en partie. Il commence à goûter ce soir-là à la condamnation divine sur les pécheurs. Cette condamnation va tomber sur lui et sur lui tout seul. Il a accepté de prendre sur lui-même et sur lui tout seul la souffrance qu'il ne voulait pas que nous on subisse. Alors, écoutez-moi là. Je vais vous faire vivre un mauvais moment maintenant. Imagine pour un moment que tu te retrouves devant Dieu, devant le Dieu saint au jugement dernier. Imagine juste pour un moment que Dieu te déclare coupable, condamnable au châtiment éternel à cause de ton péché. Et imagine que tu es sans rédemption. C'est la décision finale. Peux-tu imaginer l'angoisse et la terreur que tu vas ressentir? Jésus nous en a donné une image en disant que dans ce moment sans retour, les humains condamnés auront des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Ça nous donne une petite idée. J'espère que personne ici va vivre ça. Mais moi, je peux vous dire, grincements de dents, déjà, manquer un avion à cause d'une étourderie, c'est comme... Vous connaissez le mot. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle gaffe! Alors imaginez, ma destinée éternelle, je l'avais entre mes mains. J'ai laissé passer ma chance tellement de fois. Et maintenant, c'est trop tard. Puis là, je reçois le regard de Dieu qui me dit, « Retire-toi loin de moi. Je ne t'ai jamais connu. Sors de ma présence. Va dans les ténèbres du dehors. » Pour toujours. La réalité, c'est que c'est ça que je mérite. C'est ça que nous méritons tous. Maintenant, okay, votre moment de souffrance, on va passer à quelque chose de plus positif maintenant. Parce que ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'il a décidé de prendre tous ces procès-là individuels de condamnation divine qui devaient tomber sur les autres, sur moi, sur toi. Toute cette culpabilité du péché qui nous imprégnait, il les prend sur lui. Puis lui, il n'a jamais connu ça, la culpabilité. Il n'a jamais péché. En réalité, nous, on est habitués un petit peu à l'idée que Dieu est fâché avec nous. On est des pécheurs, ça fait partie des conséquences du péché, c'est qu'on se sent coupable devant Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ont vécu une grande partie de notre vie à imaginer, ben, Dieu ne m'aime pas, Dieu est fâché avec moi, je préfère penser à d'autres choses. Même si ce n'est pas vrai. Mais Jésus, lui, il n'a jamais eu ça. Il n'a jamais eu. Et tout d'un coup, il se rend compte, dans le jardin, tout ça va me tomber dessus demain. Je vais être l'objet de la colère du Père Céleste. C'est terrible! Jésus n'était pas préparé, beaucoup moins que nous. Et non seulement c'est un procès, c'est le procès de tout le monde qui tombe sur lui. Une colère que nous, c'est nous qui l'avions déclenchée et c'est lui qui la reçoit. Ô Jésus, notre Sauveur, comment te dire merci d'avoir pris sur toi-même le jugement qui était pour nous, pour moi, et de l'avoir porté vraiment seul devant ton Père. Merci de l'avoir fait parce que tu ne voulais pas que je le subisse moi-même. Merci de m'avoir écouté ce matin. On arrive à la conclusion. On a pris un petit peu de temps pour contempler notre héros ce matin dans son combat solitaire pour moi, pour toi, pour nous sauver, pour nous donner la liberté. Il a prié seul jusqu'à la victoire. Il a résisté à la tentation jusqu'à la victoire. Il a pris sur lui tout seul la souffrance que nous ne pouvions pas porter jusqu'à la victoire. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Oh. Prenons du temps en cette période de Pâques de réaliser à quel point il a combattu seul pour toi et pour moi, pour gagner notre liberté. Alors, comment répondre? J'aimerais dire, ayons confiance en notre Dieu, notre Jésus, notre roi, notre Seigneur. La Bible dit qu'il est le grand prêtre capable de comprendre nos souffrances humaines, nos faiblesses. Il les a toutes vécues lui-même sans péché. Et donc, la Bible nous dit, tournons-nous vers lui avec confiance, avec hardiesse, avec tous nos besoins et toutes nos demandes. Vous voyez que lui-même, dans son humanité, a dit, « Oh Dieu, enlève la croix de moi. » Et Dieu lui a dit, « Écoute, tu sais mieux que ce que tu veux vraiment, mais tournons-nous avec toutes nos demandes vers notre grand prêtre. Ayons confiance. » Deuxièmement, cette gratitude, ce remerciement. Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous, des pécheurs. Et troisièmement, servons-nous, soyons au service les uns des autres, les uns pour les autres, avec cet esprit de sacrifice que nous avons appris de lui. Et je vais juste terminer avec une petite lecture de Romains chapitre 15, les premiers versets. Nous qui sommes forts, donc Paul parle aux chrétiens affermis, et j'espère qu'on va tous être des chrétiens affermis, peut-être qu'on l'est tous déjà. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas encore forts et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. On l'a vu ce matin. Il n'a pas cherché ce que lui plaisait. Mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'injurent, ô Dieu, sont tombées sur moi. On va prier maintenant. Et ça sera la fin. Et puis j'inviterai les musiciens à revenir. En fait, ma prière de conclusion, c'est un cantique. C'est le titre de mon message, « Quel sauveur merveilleux ». Bon, on va le chanter, en fait. on n'a pas besoin d'instrument, à moins que notre pianiste se dise « je connais les accords », mais sinon, on va le chanter a cappella. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? « Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède. » Pour mourir pour l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Une dernière strophe. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Merci et gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir?